contrat science-société, je vais entendre par là les engagements et les attentes, explicites ou non, entre les acteurs de la sphère scientifique, scientifique-technologique, bon, et de la société. Par exemple, aujourd'hui, il y a une sphère des acteurs scientifiques dont, en gros, la société attend qu'elle produise cette sphère des connaissances scientifiques, hein, validées, qui jusqu'à il n'y a pas longtemps étaient assimilées au progrès, et en échange de quoi la société donne de l'argent, hein, des ressources, pour financer ses travaux. Et en plus, la société, d'ailleurs, donne une liberté d'auto-organisation de cette sphère scientifique. On voit bien qu'il y a un contrat, hein, entre une sphère scientifique et la société. Alors, ce que je voudrais évoquer devant vous, et c'est un peu la grille de lecture que je vous propose, c'est un contrat science-société tel qu'il existait dans l'après-guerre, hein, jusqu'aux années 70-80, mettons, et un contrat science-société en émergence, dont la FSC est un acteur de changement et un porteur de dynamique, mais ça, c'est pour la conclusion. Alors, premier temps, un contrat science-société, si on accepte cette terminologie, de 1945 aux années 80, ou, pour le dire très vite, donc à partir de la fin de la guerre, hein, la période de reconstruction, ce que les économistes appellent, oui, je vais faire référence, et j'essaierai à chaque fois de préciser et d'éclairer mon vocabulaire à de nombreux travaux de recherche qui existent sur ces questions sciences-société. Hein. Sachez que, bien sûr, beaucoup, certain nombre en tout cas, de chercheurs de sciences humaines et sociales ont pour objet de recherche la question que je traite maintenant. Et donc, ce que j'évoque maintenant mobilise et utilise un certain nombre, hein, des concepts et des connaissances produits par ces travaux-là. Donc, ce que on a en après-guerre, ce qu'on a appelé le compromis fordiste, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y avait de la part de la société une acceptation des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes de gestion des grandes entreprises et de mise en place de tout un nouveau système industriel et un système de consommation en échange d'un meilleur confort, d'un progrès, etc. Et on a donc là, typiquement, une adhésion générale à l'idéologie, on peut appeler ça une idéologie du progrès, dont le changement scientifique et technique est considéré comme la source. Et en parallèle, une conception que d'aucuns appellent linéaire de l'innovation, où on a une science neutre et au-delà des valeurs, qui surplombe les valeurs et qui permet l'innovation. Donc, vous voyez, on a une certaine conception de la science, d'ailleurs, qui nous est encore assez familière et qui imprègne encore beaucoup d'une science qui est d'autant plus solide et valable qu'elle est isolée de la société, qu'elle est isolée des miasmes, isolée des interférences et des opinions. Et toute autre interaction serait vue comme polluant ou interaction s'agissant d'innovation comme retardant l'innovation. Et alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans ce schéma de l'après-guerre, et je termine là-dessus sur ce schéma de l'après-guerre, on a ce qu'on a appelé la double délégation, c'est-à-dire la délégation sur l'évolution économique et industrielle qui est déléguée aux politiques et aux grandes entreprises, et la délégation s'agissant de la science et de la technologie de la part de la société auprès des scientifiques et de l'État. Donc on délègue et on fait confiance et on n'interfère pas hein, pour ne pas retarder les choses. Et on est donc dans une conception un petit peu particulière et à ce moment-là, on voit bien que les questionnements et critiques des citoyens ne peuvent être vus que comme des des modalités qui vont retarder hein, l'avènement du progrès et qui ne peuvent être dues que à l'irrationalité, à la méconnaissance, et que donc il s'agit d'avoir une culture scientifique et technique, hein, au sens classique, hein, qui éduque en sorte que on n'ait pas ensuite de gens qui viennent s'interposer et qui soient un public ignare hein, qui pose problème. Alors, donc, on a cette relation hein, donnant-donnant science-société, mais ce qu'on voit aussi, c'est la cohérence forte entre un mode de développement hein, de l'après-guerre et le schéma de relation entre science et société que j'évoquais. Tout ça est puissamment intégré, cohérent, avec une vision de l'avenir qui est le rattrapage du modèle américain. Hein, on a ce dispositif. Alors, le point, évidemment, c'est qu'à partir des années 80, alors je schématise un peu, je simplifie, mais enfin, je crois qu'il y a quand même de ça, va bouleverser complètement le contexte et rendre caduque ce contrat science-société de l'après-guerre qui a fonctionné. Je veux dire qu'on est sorti hein, des ruines hein, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à une certaine niveau, disons, de vie, de confort médical, culturel, que sais-je. Donc, d'une certaine façon, il y a eu un accomplissement des objectifs de ce modèle tel qu'il avait été défini. Aujourd'hui, alors des mots-clés, parce que je vais aller très très vite, mondialisation, libéralisation, globalisation, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ces termes généraux sur l'économie, etc., l'organisation, les institutions, les modes de travail des institutions scientifiques a en parallèle radicalement changé. Je crois qu'il faut bien avoir conscience qu'il y a autant de bouleversements dans l'économie que dans la science, les manières de produire la science, avec juste là encore des mots-clés sur la notion de compétitivité économique qui intervient, la relation avec l'industrie, les modes de financement compétitifs sur projet, les start-up, la propriété industrielle. Bon, c'est juste un peu des posters, hein, des mots comme ça, mais dont chacun a fait irruption au cours des 20 dernières années dans la pratique de la science, hein, de la recherche scientifique, et bouleverse ces pratiques. Alors, on peut parler aussi de l'évaluation des publications scientifiques, etc. Donc, il y a recomposition en profondeur des institutions, des professions, des communautés scientifiques, du rôle de l'État, et avec l'irruption de nouveaux acteurs. Et une fois qu'on en est là, on fait aussi deux constats. Premier constat, c'est caractère intrinsèquement limité de la connaissance scientifique face à la puissance des technosciences. Et ça, c'est un premier constat. L'activité de recherche et de production des technologies a été en quelque sorte tellement productif hein, qu'il a rendu l'homme capable hein, d'intervention voilà, sur la planète, sur le vivant. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le décalage entre notre capacité d'action et ce qu'on comprend de ce que ça donne, de ce que ça mène, de ce que ça fait sur les systèmes un peu plus globaux, c'est la notion de débordement, hein, et d'externalité pour différentes raisons, on pourrait y revenir. Deuxième fait émergent à la conscience, hein, dans ce nouveau schéma, c'est que il saute, hein, au nez, hein, et la figure que ces activités de recherche et d'innovation ne sont pas neutres vis-à-vis de la société, elles façonnent la société, nos modes de consommation, nos modes de production, nos relations à la nature, nos relations aux autres, notre culture, et que donc ça renvoie à des choix politiques. C'est la définition même du politique, hein, c'est le bien commun. Ces capacités des technosciences modèlent et façonnent l'ensemble des éléments qui sont le bien commun. Et donc, par définition, c'est le cœur des questions politiques. Et alors là, il y a une citation, les technosciences, hein, contraignent, même sans intentionnalité explicite, les choix techniques d'une génération, et les choix techniques d'une génération influencent profondément la vie des générations suivantes. Donc on a cette situation, et alors on voit bien que les postulats, les fondamentaux de l'ancien contrat, de la façon de vivre, hein, la société avec la science, de l'après-guerre, volent en éclats, sont complètement intenables. Et il y a cette notion, hein, là je vais citer Hans Jonas, de l'émergence d'une responsabilité de la société, puisque la puissance humaine a pris une telle dimension que le simple exercice quotidien de notre pouvoir devient un problème éthique. Hein, je crois que c'est. Et c'est ce qu'on appelait l'éthique du futur, enfin, Hans Jonas. Et à ce moment-là, les deux délégations que j'évoquais, la délégation des éléments politiques aux élus et aux grandes entreprises, et la délégation sur la science et la technique aux chercheurs et aux politiques, ces délégations-là ne sont plus possibles, elles sont mises en question. Elles avaient été acceptées après-guerre en échange du bien-être matériel, mais aujourd'hui on se rend compte que précisément la relation politique et la relation à la science, c'est non pas ce qui doit être délégué pour simplifier, pour accélérer, mais c'est ce qui est en question, ce qui doit être discuté et repensé, puisqu'on voit où nous mène, hein, cette délégation, cette irresponsabilité dans laquelle on était un petit peu confortablement installé. Et moyennant quoi, on est en situation de redéfinir dans ce contexte nouveau, ce que pourrait bien être ce nouveau contrat science-société, et comment les activités scientifiques pourraient aujourd'hui, hein, se déployer dans un rapport à la société qui permette de faire face, hein, à, aux questions de fond et aux problèmes de fond que j'évoquais à l'instant. Alors, on peut exprimer cela, et j'arrive à ma conclusion, autour de notions de réflexivité, hein, le terme a été employé une fois ou l'autre, bon, et le terme participation, alors c'est un mot, un de ces mots, hein, du vocabulaire et des concepts totalement polysémiques, hein, et donc chacun a finalement une représentation qui peut lui être propre, mais en première approximation, j'utilise ce terme malgré ses imperfections ou ses potentialités de malentendus. Et cette notion donc de réflexion collective sur la science, sur la technologie, sur où est-ce que ça nous mène, et intervention, participation dans la sphère scientifique, avec ce postulat, hein, que la confrontation systématique des options portées par les différents acteurs, porteurs d'expériences, de savoirs et de représentations diverses, est le type de processus hein, et de cheminement qu'il s'agit de mettre en place. Et que voilà, et qu'on est là proche hein, de ce qu'on peut appeler la démocratie technique, mais on pourrait y revenir. Alors je conclus en disant que cette refondation du contrat science-société dans ce nouveau contexte, c'est un mouvement social, c'est une dynamique sociale, et c'est porteur de conflits, c'est porteur de tensions, de négociations, parce qu'il y a bien évidemment des intérêts très différents selon les acteurs quant au nouveau format de ce nouveau contrat science-société, si on veut l'appeler comme ça. Et je crois qu'on revient à une des choses qui a été évoquée ce matin, c'est qu'on est dans de la conflictualité, dans des différences d'intérêts. Et évidemment, tout un certain nombre d'acteurs puissants, étatiques ou d'entreprises, ont tout intérêt à nous ramener aux modalités de l'après-guerre, où c'est eux qui étaient porteurs du bien commun, de la science et de la légitimité politique. Donc avec ça, effectivement, hein, on est assez tranquille hein, pour faire un petit peu du business politique ou autre. Et que le nouveau contrat que j'évoque là, il est porteur de toute autre chose qui dérange et met en cause des intérêts. Je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça. On n'est pas dans des questions philosophique ou éthique, hein, il y a des intérêts extrêmement puissants en jeu et on ne peut pas s'en tenir à un raisonnement un peu logique, voyez, et on voit bien les débats hein, et les conflits et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des difficultés, c'est pas uniquement des pesanteurs ou des gens mal informés ou un manque de connaissances. C'est pas tellement ça. Hein, c'est comme pour le climat hier, la connaissance scientifique, on l'a, le sujet il est ailleurs. De même pour ces affaires-là, l'analyse que je viens d'évoquer, je veux dire, elle n'a rien hein, d'original. Et ce qui empêche d'avancer hein, vers ce nouveau, vers la démocratie scientifique et technique, c'est pas qu'on ne sache pas ce que ça pourrait être, c'est pas qu'on hésite sur comment le diagnostic, pas du tout. C'est que c'est évidemment quelque chose qui remet en cause toute une série d'intérêts. Et là, c'est mon mot de conclusion, les différents axes hein, de travail de la Fondation Sans Soutien, c'est justement de faire entrer en démocratie les différentes dimensions hein, de ce contrat science-société. Il y a une dimension autour de l'orientation et les choix et les priorités hein, scientifiques et techniques et des budgets, au niveau du politique, au niveau des agences de financement. Il y a toute la question aussi de la recherche elle-même, la recherche participative, on en parlera. Toute la question aussi de l'expertise scientifique, qui est le lieu de passage entre le laboratoire, en quelque sorte, et la décision politique ou réglementaire. Et il y a des foires d'empoigne incroyables, hein, que vous connaissez, sur ces questions d'expertise. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, sur les OGM, les pesticides, hein, les enjeux financiers sont gigantesques. Et j'avais essayé de relever un certain nombre de stratégies d'acteurs, notamment de grandes entreprises, pour asservir et capter la science pour la mettre à son sommet, et quatre phrases, c'est promis, c'est la fin. Stratégie 1, faire parler la science en faveur de ses intérêts. Si vous arrivez en tant qu'entreprise à, par en général un scientifique hein, que vous payez, lui faire parler en tant que la science au nom de vos intérêts à vous, c'est quand même pas mal. Hein, puisque associé à la science, il y a toute une série de valeurs, hein, de crédibilité qui sont là. Donc ça vaut vraiment la peine. Et c'est ce qu'on découvre dans les gens qui sont jugés partis, dans des comités d'experts. Évidemment, c'est tout à fait intéressant, celui qui arrive à faire ça. Faire biaiser, numéro 2, fragiliser, orienter les travaux de leur recherche ou leur synthèse. J'insiste pas, mais là aussi, on peut démontrer. Et puis l'histoire du tabac, mais aujourd'hui, c'est vrai pour C'est vrai pour les OGM et exactement vrai aussi pour les perturbateurs endocriniens. On retrouve l'histoire du tabac, hein, c'est-à-dire le financement qui biaise, fragilise, oriente les travaux de recherche ou leur synthèse. Parce que vous pouvez faire les travaux de recherche et puis vous biaisez la synthèse. Vous voyez, ça peut être subtil. Promouvoir un cadrage favorable à ses intérêts. Par exemple, les critères de validité des études toxicologiques. Hein, les foires d'empoigne sur c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est quoi? C'est les critères admis de ce qui est dangereux. Donc, le propos, c'est qui fixe les critères de ce qui est dangereux? Et selon quel protocole d'expérience on peut mesurer les éléments de ces critères? Et donc, celui qui arrive par des commissions, des trucs au CDE, etc., à bouger les critères, eh ben, il a gagné. Donc, voilà. Autre chose aussi, alors là, c'est inversement, hein, c'est dans la société civile, faire de la désobéissance civile dans le champ de la science et de l'expertise. Moi, j'ai envie de mettre notre ami Serralini là-dedans. Hein, il a, voilà. Et voyant quoi, ça déstabilise sacrément la toxicologie officielle, toxicologie réglementaire, qui est basée sur des critères ad hoc. Enfin, disqualifier les porteurs de réglementation en faisant courir de fausses rumeurs, les accusant d'excès de précaution aux conséquences graves. Par exemple, sur la question des perturbateurs endocriniens, un membre de l'Académie des sciences, etc., ancien directeur de CNRS, disqualifie les gens qui s'inquiètent en disant « mais c'est les mêmes qui, il y a 30 ans, ont interdit le DDT en Afrique, ce qui a fait 3 millions de morts. » Je prends le truc, on balance ça avec l'Académie des sciences. Bon. Et il cite une publication scientifique qui dit cela. Idem sur la question de vaccins qu'on a interdit parce qu'il y avait un problème et qu'il y a eu alors, 10 millions de morts. Bon, on y va. Et quand on gratte les choses, on s'aperçoit que tout ceci est fallacieux, même si c'est colporté, ça finit par devenir une connaissance partagée. Et donc, décrédibiliser ceux qui posent une question sur la précaution. Tout ça pour dire que c'est des stratégies et que nos affaires de démocratie scientifique, c'est à ça qu'il faut qu'elles se confrontent, et donc nous tous par la même occasion. Merci.